Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat cette semaine avec le magazine Version Femina. Bonjour Catherine Rouague.
Bonjour Caroline.
On vous retrouvera en fin d'émission à 12h25 pour la cerise sur le gâteau. Quelle cerise aujourd'hui ?
Ah, aujourd'hui, je vous ai apporté des bonbons.
Ah, peut-être même rapporté. Ouais. Bonjour Natacha Triou.
Bonjour Caroline.
Vous nous proposez la madeleine de qui aujourd'hui ?
La madeleine du dessinateur Jules.
Oui, à tout à l'heure, 12h15. Et notre plat du jour, lui, sera dédié aux enfants. D'où l'occasion pour nous de nous demander comment on transmet le goût des bonnes choses aux enfants via les livres.
La cuisine exige un peu de patience, mais tout le monde peut y arriver. Voici quelques conseils pour t'aider à démarrer.
Amuse-toi à choisir des produits frais et de saison. Prends les plus jolies couleurs et ceux qui sentent le meilleur.
Tes mains doivent être bien propres, car tu vas sans cesse toucher les aliments. Pour être le roi ou la reine de la cuisine, pense bien à...
Utiliser le matériel adapté. N'hésite pas à demander à un adulte de t'aider, si tu ne sais pas comment t'en servir.
Suivre les étapes de la recette dans l'ordre, sinon le résultat et la texture peuvent être très différents.
Faire attention quand tu découpes les aliments. Là encore, demande à un adulte de t'aider, car certains couteaux peuvent être très tranchants.
Pour réussir les recettes, il te faudra...
Une balance et un doseur.
Un mixeur plongeant.
Un fouet.
Une spatule.
Une marise.
Des cuillères.
Des couteaux.
Des casseroles de différentes tailles.
Un moule à cake.
Un plat à l'eau au four.
Et un robot-batteur.
Voilà les conseils du chef en début de livre de cuisine pour les enfants, le livre de notre premier invité. Bonjour Guillaume Gomez.
Bonjour, comment allez-vous ?
Mais très bien, et vous-même ?
Très bien, je vous remercie, merci de votre invitation.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chef des cuisines du Palais de l'Élysée et meilleur ouvrier de France. Vous avez mis votre savoir-faire au service des plus jeunes et vous proposez les recettes gourmandes expliquées dans un livre qui est apparu aux éditions du Chêne. Cuisine pour les enfants, c'est la déclinaison du Leçon en pas à pas, préfacé par Robuchon et Bocuse, qui a été un best-seller et qui a été sacré meilleur livre de cuisine française au monde lors des gourmands World Cookbook Awards. Et puis, se trouve avec nous, alors cette fois depuis les studios de France Bleu Toulouse, Noémie Weber, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes-vous une ancienne professeure de français reconvertie dans le dessin? Vous avez remporté les Jeunes Talents à Angoulême en 2011 et vous signez votre première bande dessinée qui a pour titre Junk Food Book. Elle a paru chez Gallimard. C'est un livre qui concourt pour les pépites du Salon du Livre Jeunesse 2018 dans la catégorie BD. Pépites qui sont choisies par un jury d'enfants et qui seront remises mercredi prochain. Deux livres donc de cuisine ou pour penser ou pour aimer les bonnes choses à destination des enfants. D'où ma première question à l'un comme à l'autre. Pourquoi avoir fait un livre à destination de la jeunesse ? Guillaume Gomez.
Eh bien, parce que je pense qu'il est très important déjà de leur donner envie d'éduquer ou de rééduquer ceux qui ne seraient pas sensibilisés par la nourriture et par l'envie de manger et partager un moment en cuisine, de fabriquer son repas. Alors ça peut commencer bien avant par le fait de faire les courses et d'aller au marché, mais c'est vrai que à partir du moment où on pose une assiette déjà préparée sur table, l'enfant va peut-être être réticent et on entend très souvent « non j'aime pas ci, non j'aime pas ça », alors que si vous les mettez en cuisine, bizarrement les enfants aiment tout.
Pour un chef, l'idée de la transmission est centrale ?
Oui, bien évidemment. Vous savez, en plus, en tant que meilleur ouvrier de France, c'est plus que central. Ça fait partie de notre ADN, à nous, les meilleurs ouvriers de France, de transmettre ce métier, cette passion. Et ce livre de cuisine, Leçon en pas à pas, il a été pensé comme ça, sur la transmission de techniques et qu'est-ce que les enfants ont envie de manger et pourquoi est-ce que les enfants se sont éloignés. Alors, pour diverses raisons, que ce soit les appareils, les jeux vidéo, la télé, se sont éloignés, voilà, des choses, on va dire, très concrètes de la cuisine, de la terre, alors qu'on voit voit, dès qu'on essaye de remettre les enfants en cuisine, dès qu'on partage un moment avec eux, tout de suite, ils sont déjà très intéressés. On voit même dans les classes, moi je participe à des leçons de goût depuis des années, et souvent les maîtresses ou les maîtres me disent, je suis étonné, parce que bah, tel et tel élève qui était plutôt indiscipliné, plutôt un élément perturbateur, dès qu'on a parlé cuisine, dès qu'on a commencé à cuisiner ensemble, bah, il s'intéresse en fait. Et puis, sous forme de jeu, c'est aussi pour ça que je l'ai voulu avec illustré par Louison, pour que ce soit ludique et à lire et à découvrir, mais sous forme de jeu, en s'amusant, on peut cuisiner et on peut apprendre ou réapprendre à manger.
Noémie Weber, même question à vous. Pourquoi un livre à destination de la jeunesse, sachant qu'en plus, c'est votre première bande dessinée ?
Oui, alors en fait, c'était dans mon esprit pas forcément un livre destiné à la jeunesse au départ. C'est plutôt, on va dire, un livre pour les adultes qui sont restés un peu enfants. Mais bon, bien sûr, il est tout à fait accessible à des enfants, disons, pas trop jeunes.
De 7 à 77 ans, il y a quelques années, maintenant de 7 à, je sais pas, 97 ans peut-être.
Oui, là, je dirais plutôt quand même 9-10 ans.
D'accord,
c'est peut-être un peu jeune. Après, je pense que selon les tranches d'âge, on appréhende le livre de manière différente. Donc, je dirais que c'est tout public à partir de 9 ans, quoi.
Guillaume Gomez, vous vous êtes demandé pour quel âge était votre livre ou à partir
Alors,
de quel âge?
Non, parce que je le mets dans la préface. On est tous des enfants, donc de toute façon, il y a des adultes qui m'ont dit non, mais moi, je suis vraiment nul en cuisine. Donc je vais prendre celui-là. Bah écoutez, si vous vous sentez à l'aise comme ça, pas de souci. De toute façon, il est à destination des familles, ce livre-là, que ce soit les enfants avec leurs frères, leurs sœurs, des cousins, des cousines, les parents, les oncles, les tantes, la nourrice, je sais pas. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre qu'avec le livre, on se réapproprie l'instant dans la cuisine et en 20 minutes, en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures, en fonction des recettes, on va préparer et on va partager un moment avec l'enfant. Et en fonction, bien évidemment, de l'âge des enfants, ça fonctionne avec des enfants de 3 ans. Bien évidemment, vous n'allez pas leur faire la même chose qu'avec des enfants de 7 ans. L'adulte va devoir intervenir un petit peu plus souvent.
Il faut le lire seul ou il faut le lire avec un adulte, Noémie Weber, le Junk Food Book?
Je pense que, en tout cas, à partir de 9 ans, on peut le lire tout à fait seul. Après, il y a peut-être certaines parties que les enfants vont peut-être moins comprendre, mais c'est pas très grave. En fait, pour l'ensemble, la compréhension de l'ensemble de l'histoire, on peut tout à fait le lire tout seul à partir de 9 ans. Il n'y a pas de problème.
Je suppose que pour l'un comme pour l'autre, et d'ailleurs, on l'a entendu dans ce que vous disiez, Guillaume Gomez, la pédagogie est très importante. D'ailleurs, le livre Guillaume Gomez s'intitule Cuisine, leçon pas à pas.
Oui.
Est-ce que votre ancien métier de professeur de français, Noémie Weber, vous a été utile pour écrire Junk Food Book?
Bon, je pense que ma formation littéraire m'a été utile pour construire l'histoire. Ensuite, pour ce qui est de la pédagogie, oui, probablement, bien sûr que mon ancien métier m'a aidé à être plus attentive à peut-être ce que les enfants ou les adolescents pouvaient comprendre dans l'histoire. Maintenant, le but quand même du livre, c'était d'être essentiellement divertissant et amusant, et seulement dans un second temps de faire passer un message. Moi, j'ai essayé quand même de faire en sorte que le côté militant ou message ne vienne pas porter préjudice au côté quand même un peu léger et amusant qu'il y a dans le livre. C'est quand même plutôt ça, mon but, c'était quand même de faire passer un message, mais en divertissant.
Alors, Junk Food Book, vous ne trompez personne avec le titre du livre, hein, Noémie Weber. C'est bienvenue à Malbouffe City, c'est la ville où on se gave de frites, de burgers, de sodas, de donuts. C'est un petit coin de paradis pour, en tous les cas, certains adolescents, mais pas seulement d'ailleurs les adolescents. Mais il y a quand même des antiquineurs qui viennent perturber la fête. C'est des trafiquants de salades vertes, de carottes. Et le maire de la ville veut évidemment les arrêter, veut les emprisonner. Il les emprisonne d'ailleurs dans un camp de rééducation alimentaire absolument terrible. On les force à manger des burgers toute la journée. Vous aviez déjà fait un premier album jeunesse en 2011 où il était question d'un mouton avec des dents pointues qui mangeait de la viande. Qu'est-ce qui se passe avec la cuisine et vous, Noémie Weber?
Je ne sais pas. Je pense quand même que pour mon prochain livre, je vais changer de thématique. Mais c'est vrai que la nourriture, ça m'a toujours assez interpellée. Et puis, j'aime bien faire des inversions de valeurs, en fait, c'est-à-dire le mouton qui mange de la viande. Là, il y a l'idée que dans le monde de Malbouffe City, tout est inversé puisque c'est la malbouffe qui est la norme. Et en fait,
c'est le burger qui est le plat national, oui.
Puis les légumes sont prohibés et même ils produisent carrément des effets nocifs un peu sur les gens puisque les gens n'ont plus l'habitude d'en manger. Et donc, les légumes produisent des effets de la drogue, en fait, sur les gens.
Bon, on peut dire que c'est une dystopie, c'est un monde qui n'existe pas. On espère peut-être pas encore, on va en parler tout à l'heure, hein, de la malbouffe. Mais c'est l'histoire d'un petit personnage qui est Pépito Biscuit, qui est le fils du militant résistant Youssouf Ralatouf, qui a été abandonné bébé par sa mère, parce que sa mère voulait le protéger du très méchant chef de la ville, le leader du marché du fast-food et de la chaîne Hungry Tiger. Est-ce que vous diriez que votre petit personnage de Pépito, c'est une sorte de Mowgli des temps modernes?
Oui, c'est ça. En fait, l'origine de cette histoire, en fait, c'est parti d'une blague qui était sortie dans une soirée où quelqu'un avait lancé cette idée du livre de la jungle dans un fast-food avec un bébé abandonné dans un fast-food et élevé par les managers et les équipiers. Je m'étais dit, ah, ça, c'est une bonne idée pour une BD. Et effectivement, grosso modo, l'intrigue de l'histoire est calquée sur le livre de la jungle. Donc, normalement, on peut reconnaître non seulement Pépito, qui effectivement correspond à Mowgli, mais d'autres personnages de l'histoire qui correspondent à des personnages du livre de la jungle.
En entendant ça, Guillaume Gomez, vous dites quelque chose de particulier quand on croise des poulets en batterie devenus fous, des bains d'huile, des viandes dont la qualité laisse à désirer.
Bah, je me dis que ce serait un cauchemar, hein. Mais après, bon, sûrement bien amené et dans un livre illustré, ça doit être très drôle de découvrir ça. Mais c'est vrai que non, on espère que ça n'arrivera jamais. Après, faut laisser libre cours à l'imaginaire et comme tous ces livres-là, ils sont censés nous faire voyager, et pas forcément dans le monde idéal, on va dire.
Personnellement, Guillaume Gomez et Noémie Weber, vous êtes plutôt carotte ou plutôt donut?
Plutôt des deux, hein. Enfin, vous savez, la junk food, comme on dit, elle ne fonctionnerait pas si personne la mangeait. Donc, arrivé un moment, c'est bien que, de toute façon, on y a tous goûté. Enfin, moi, je vous avoue que je ne mange pas dans les fast food. Maintenant, je ne suis pas contre un bon hamburger. Et comme tout le monde, j'ai mangé de tout, hein. Donc, disons, ce qu'il ne faut pas, c'est que ça devienne la norme.
Noémie Weber. Les hamburgers ne sont pas forcément mauvais non plus. On peut.
Quand ils sont faits maison.
Maison, voilà, ça peut être très bien.
Alors, il n'y a pas d'ailleurs de hamburger maison dans les recettes que vous donnez aux enfants, Guillaume Gomez. Si je lis là,
il y a des nuggets.
C'est différentes parties, hein.
Monsieur, j'ai mis plein de choses. Après le hamburger, si vous voulez, c'est bon, ça reste un steak haché. Alors après, ce qui est bon dans le hamburger à faire maison, c'est le pain. Et je me suis dit que pour les enfants, ça allait peut-être être un petit peu compliqué et trop contraignant pour que les parents. Le but, si vous voulez, c'est pas de faire une cuisine trop compliquée, mais que ce soit une cuisine qui soit facile, abordable et que les enfants aient envie de la faire. Là, le but, c'est que le livre, dans quelques mois, il soit complètement taché, que les enfants aient continué de le lire même après avoir cuisiné, ainsi de suite, et puis que les enfants s'y mettent. Donc il y a des recettes qui sont très simples, d'autres qui sont un petit peu plus compliquées. J'ai décidé de mettre des recettes que les enfants avaient envie de manger. Le hamburger, en fait, je vais vous dire, ils en font jamais à la maison. Ils le mangent de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc là, le but, c'était de leur faire les repas qu'ils pourraient manger à la maison. Concrètement, les enfants, les parents vont acheter des nuggets, par exemple, pour les cuire seulement à la maison, alors que là, on leur donne la recette pour faire un vrai nuggets avec de la vraie volaille et pour pouvoir les faire soi-même. Et je peux vous dire, pour connaître pas mal de parents qui les ont testés avec leurs enfants, c'est un vrai succès.
Quand vous dites recette simple, je suppose que vous pouvez penser à la purée maison, quoique c'est difficile de réussir une très bonne purée. Et recette un peu compliquée, c'est les soucoupes volantes aux anchois?
Alors voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Là, c'était le côté un petit peu ludique, on va dire, pour les attirer vers quelque chose d'autre. Mais non, mais dans les recettes très simples, vous avez par exemple les œufs mimosa multicolores, vous avez les brochettes de tomates mozzarella, vous avez le melon surprise. Vous voyez, ce sont des recettes qui sont pas très compliquées à faire, des choses très jolies qui peuvent être présentées pour, là, je les ai mis dans la catégorie repas d'anniversaire, pour faire des présentations, des choses comme ça. Et après, à partir du moment où il va y avoir des cuissons, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Quand il y aura des taillages, quand il y aura des cuissons. Alors le hachis parmentier, la purée maison, oui. La purée maison, c'est pas si simple que ça. Mais ça peut être, on va dire, un moment assez facile aussi pour que les parents puissent s'y mettre à la cuisine en se disant ça va pas être compliqué avec mon enfant. Et une fois de plus, qu'ils puissent partager un moment ensemble. Et j'en parlais par exemple avec les légumes. J'ai mis les frites de légumes, j'ai mis le gâteau d'épinards, des choses comme ça. C'est pour attirer les enfants vers une alimentation un petit peu plus équilibrée.
Alors, fut un temps où on lisait les livres de cuisine pour enfants d'abord en livre, et puis on les lisait aussi ou on les partageait avec des enfants à la télévision. C'était ce que faisait Michel Oliver, dont le livre « La cuisine est un jeu d'enfant » remonte à une cinquantaine, un peu plus même, 1963 je crois, d'années. Son livre de recettes avec dessin, comme quoi ça marche toujours. Et Michel Oliver donnait aussi quelques leçons de cuisine à des enfants à la télé avec la mini-cuisine. Écoutez cet extrait de la mini-cuisine, l'ORTF, on est en 1967.
Alors tu vois les bananes, on va les poser sur le grill, comme ça, simplement.
Et la peau?
Et alors la peau, oui. Eh bien quand la peau va être toute noire, on va les retourner de l'autre côté pour que la peau soit noire des deux côtés. Et quand la peau sera noire des deux côtés, on va les reposer sur le plat et simplement enlever le dessus, c'est-à-dire tirer une peau de banane. Et quand on aura tiré une peau de banane, on va la sucrer, la banane sera entièrement fondue et on va manger ça à la cuillère.
Va se régaler, hein.
Tiens,
oh, regarde, elle est ouverte, elle n'est pas fondue. Tu vas voir tout à l'heure si elle sera pas fondue. Regarde.
Jaloux.
Bon, on les laisse cuire encore de l'autre côté. Maintenant, les bananes sont cuites. On va se brûler un peu en enlevant la peau du dessus. Mais ça vaut le coup, hein. On fait quoi? Et on fait ça pour toutes les bananes, hein. Allez, bon appétit.
Guillaume Gomez, vous en êtes inspiré de Michel Oliver, son livre, ses émissions de télé?
Vous n'étiez pas né, mais... Parce que je connaissais pas ses émissions. Je connais Michel Oliver, mais je ne connaissais pas ses émissions. J'ai bien évidemment entendu parler de son livre quand on a décidé de sortir celui-là. Mais moi, je l'ai sorti tout simplement parce que c'était dans la continuité de la collection de cuisine Leçon Papa que j'ai fait, qui est destinée à un public adulte, et dans la continuité de ce qu'a fait mon ami Philippe Huraca pour la pâtisserie. Donc, si vous voulez, il faudrait demander aux éditions Duchesne, qui sont eux les directeurs de la collection, qui eux avaient décidé de faire ce livre pour enfants. Moi, mon seul souhait ayant été de collaborer avec Louison, parce que c'est une artiste dont j'aime bien l'univers et je savais qu'elle ferait quelque chose de très ludique pour les enfants. Et bien évidemment, c'est moi qui ai choisi les recettes. Mais non, je peux pas dire que je me suis inspiré de ce qu'avait fait Michel.
Sur les sucettes, vous pouvez mettre des vermicelles, des paillettes, mais tout ce que vous voulez.
Et vous écoutez les bonnes choses sur France Culture, c'est l'heure de la Madeleine de Natacha Triou, la Madeleine de Jules, le dessinateur. Donc.
Oui, donc on reste dans la littérature jeunesse, hein, l'auteur de bande dessinée, le dessinateur de presse, et on lui doit des succès comme Silex and the City ou La Planète des Sages. Donc c'est quelqu'un qui s'est croqué son époque. C'est lui aussi qui a réinventé le personnage de Lucky Luke. Il publie tout juste d'ailleurs un 8e volume, Un cow-boy à Paris, qui est déjà un best-seller. Et pour sa Madeleine, Jules nous parle d'une spécialité tunisienne très rare, au nom assez onirique.
Alors en fait, je pense que pour que quelque chose que l'on mange soit une madeleine, il ne faut pas en manger trop souvent, parce que sinon c'est usé par le quotidien, hein, par l'habitude. Et alors, moi j'ai pensé à une chose assez rare, que j'ai presque jamais retrouvée, parce que c'était très lié à ma grand-mère, parce que quand même la génération des madeleines, c'est souvent la génération des grand-mères, parce que ma grand-mère qui est tunisienne, faisait un plat qu'en fait, il me semble que seuls les Tunisiens font. Ça s'appelle de l'air et du vent. Rien que le nom, déjà, c'est incroyablement savoureux. Et à vrai dire, ça ressemble à son nom. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'hyper aérien qui flotte dans une espèce de bouillon clair. Je ne sais même pas comment on peut fabriquer cette chose et à partir de quoi c'est fait. Mais je pense que ça doit être des œufs avec de la semoule, comme une espèce de mini-omelette à la semoule, hyper aérienne, extrêmement... comme une espèce de mousse polystyrène, mais extrêmement fondante. C'est-à-dire que l'apparence ressemblerait à des... C'est très alvéolé, comme ça. Et puis, ça fond dans la bouche et ça a ce goût un peu particulier, avec une espèce de fadeur subtile. C'est presque, je dirais... C'est tunisien, mais je dirais presque que c'est de la nourriture taoïste. Pour moi, ça s'est toujours appelé l'air et le vent. Je suis même pas sûr que c'est un autre nom. J'ai jamais fait de recherche sur Internet. Je pense que si on tape de l'air et du vent, sans autre mot, je pense pas qu'on va avoir, on va tomber directement sur une page de cuisine tunisienne. Je pense qu'on aura plutôt Météo France, par exemple. Et de temps en temps, quand je rencontre mes semblables, c'est-à-dire des gens pour qui l'air et le vent veulent dire quelque chose d'extrêmement important et ancien, ben c'est un vrai plaisir d'échange. Je suis sûr que des gens qui écoutent là en ce moment ce que je suis en train de raconter se disent, mais bon sang, mais je ne suis pas le seul sur cette planète à aimer l'air et le vent. Ma grand-mère était toute petite, je pense qu'elle avait plein de bulles dans les os et tout, je pense qu'on pouvait la soulever avec deux doigts, et du coup, oui, ça correspondait bien à ce plat-là aussi. En fait, elle, quand elle faisait la cuisine, c'était tout un rituel, parce que notamment, elle devait enlever ses économies qui étaient dans le four, déjà, pour commencer. Et je crois pas qu'elle ait jamais brûlé ses billets, mais elle les rangeait dans une petite boîte dans le four. Elle faisait beaucoup la cuisine. Et en fait, moi, j'allais le week-end chez elle, et c'était une espèce de long moment d'ennui doux, qui était rythmé par essentiellement Michel Drucker. Et il y avait cette odeur de l'air et du vent qui commençait à exhaler de la cuisine. Ça durait longtemps, tout ça. Vous voyez les éponges Spontex avec un côté vert et un côté jaune. En fait, vous enlevez le côté vert, il reste le côté jaune. Vous le cuisez très très longtemps et imaginez que ça commence à s'effilocher. Et ben c'est ça.
La Madeleine de Jules. On retrouve nos deux invités, Guillaume Gomez, meilleur ouvrier de France et chef des cuisines du Palais de l'Élysée, qui signe un livre de cuisine pour les enfants, leçons en pas à pas illustré par Louison, et Noémie Weber, qui est l'auteur d'une bande dessinée intitulée Junk Food Book, qui est sélectionnée parmi les pépites du futur salon du livre jeunesse de Montreuil, qui ouvrira ses portes mercredi prochain. Il y a bien quand même un certain nombre de points communs entre vos deux ouvrages, et notamment ce rapport à la malbouffe ou au manger bien et équilibré. Parce qu'on se demande, en vous lisant, Noémie Weber, si vous souhaitez inciter les enfants avec ce livre, qui est une dystopie donc, à bien manger, ou si c'est juste du divertissement. Et puis on vous lit, Guillaume Gomez, en particulier dans vos recettes, où il y a beaucoup de fruits et de légumes. Il y a même d'ailleurs tout un chapitre consacré aux légumes, avec un gâteau d'épinards, une soupe Halloween à la citrouille ou un baïaldi de ratatouille. Et dans vos premiers conseils, vous dites bien, choisis toujours des produits frais et de saison, équilibre ton menu et varie les aliments, même si tu es gourmand ou gourmande, pas trop de sucre ni de gras par jour. Alors, est-ce qu'il y a un souci de pédagogie qui va au-delà de ça, quoi, de donner des leçons du bien manger dans les deux cas? Noémie Weber.
Alors oui, bon, de toute façon, je pense qu'on peut pas ne pas être concerné par ces problématiques. Donc bien sûr que dans mon livre, la balance penche vraiment du côté du bien manger et de la critique de la malbouffe. Après, c'est vrai que j'ai essayé de pas être trop manichéenne non plus.
Vous réussissez, hein, trop, dire.
De rester un petit peu à distance et de privilégier quand même le côté amusant du livre, parce que moi je voulais faire un livre drôle, et en fait je trouve que un militantisme trop premier degré ne cadre pas vraiment bien avec l'humour. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de rester un peu à distance et de relativiser, donc de montrer que dans le monde de la malbouffe, il y a aussi des côtés assez joyeux et il n'y a pas que du mauvais, en fait. Et de l'autre côté, dans le monde des légumes, tout n'est pas rose non plus. Il y a quand même certaines personnes qui ont bien le sens du commerce aussi dans mon histoire. Mais bien sûr que globalement, il s'agit d'inciter plutôt les gens et les jeunes à manger des légumes, en fait.
Il faut quand même rappeler que selon l'OMS dans le monde, le surpoids et l'obésité touchaient en 2016 41 millions d'enfants de moins de 5 ans et 340 millions d'enfants et d'adolescents âgés de 5 à 19 ans. Guillaume Gomez, quand on est un chef comme vous, on est nécessairement soucieux aujourd'hui du bien manger et de la malbouffe?
Oui, parce que c'est juste ramener un petit peu de bon sens dans la cuisine et dans notre mode de consommation. On voit avec tous les sujets qui arrivent aujourd'hui sur la table, c'était des sujets dont on parlait pas il y a 50 ans parce que c'était juste du bon sens. Personne mangeait des tomates au mois de janvier il y a 50 ans parce qu'on les trouvait pas, tout simplement. Donc voilà, c'est juste expliquer aux enfants une fois de plus, comme vous l'expliquez, c'est pas être donneur de leçons et être trop strict dans un sens, parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas. Il faut que l'enfant, il vienne par lui-même, qu'il comprenne en cuisinant, on lui explique pourquoi les produits de saison, tout simplement parce que déjà c'est là où ils sont les meilleurs et c'est là où ils sont les moins chers. Et donc je distille à travers les recettes quelques conseils, également sur le gaspillage alimentaire, qui est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça commence par là. Et voilà, et juste pouvoir éveiller chez eux un début de sensibilisation à ce qu'on va travailler, respecter le produit, parce que derrière un produit, il y a des femmes et des hommes qui font ces produits-là, qui les fabriquent, qui les élèvent et qui les font sortir de terre en ce qui concerne les fruits et légumes. Donc juste avoir une approche là-dessus. Et après, vous savez, la cuisine, ça doit rester avant tout du partage et du plaisir. Donc on n'est pas là pour leur expliquer qu'il faut manger que des légumes vapeur. Si vous aimez ça, tant mieux. Si vous aimez pas, il y a d'autres façons de manger des légumes. Et ça peut être à travers les plats qui vous paraissent gourmands et qui vous paraissent quelque chose d'intéressant, comme les nuggets, comme le hachis parmentier, comme tout ça. Mais déjà, voilà, un nugget fait maison, un hachis parmentier, quand vous avez épluché la pomme de terre, quand vous avez fait attention à ce que vous avez acheté, quand vous avez respecté tous les produits du début à la fin, sans trop gaspiller, bah, c'est quelque chose que l'enfant va comprendre et auquel il va être sensibilisé. Et après, vous verrez qu'il mangera plus de salade de tomates mois de janvier si vous lui faites goûter une, je sais pas, comme la soupe Halloween, la soupe de potiron, parce que c'est quelque chose qu'il aura aimé et qu'il aura fabriqué. Vous avez parlé du baïaldi. Le baïaldi, c'est le baïaldi comme dans Ratatouille, comme dans le dessin animé de Ratatouille. Voilà, parce que grâce à ce dessin animé de Ratatouille, les enfants ont entendu parler du baïaldi et un jour se sont dit, bah, moi j'ai envie de le goûter. Et dans les écoles, quand on fait ce baïaldi de légumes comme dans Ratatouille, il n'y a pas un enfant qui me demande ce que c'est qu'un baïaldi. Tous, ils savent parce qu'ils ont vu le dessin animé. Ils savent que voilà, ce sont des légumes en tranches sèches bien rangées dans une assiette avec une souris qui fait à manger. Donc voilà, c'est le but, il est là. Le but, il est de se dire, pas imposer quelque chose, même si le livre s'appelle Leçon en pas à pas, pas imposer une leçon qui soit juste linéaire et que les enfants pourraient s'y perdre, mais leur donner envie d'aller plus loin et de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait tel produit à cette saison-là et quand est-ce que ce sont les saisons. Et les enfants, vous savez, s'y intéressent. Ils connaissent les saveurs, ils connaissent tout ça. Et aujourd'hui, quand on leur pose des questions sur les saisons, bah certains, à force d'avoir été intéressés à ça, commencent à comprendre les saisons. Et je suis sûr que demain, ce sont les enfants qui diront « Mais papa, pourquoi est-ce que tu nous fais une salade de tomates ce soir alors qu'on est en hiver ?»
Allez, un slogan alors. Tous au fourneau. C'est ce qu'on pourrait retenir notamment de votre livre, Guillaume Gomez, le cuisine, leçon en pas à pas, illustré par Louison, qui a paru aux éditions du Chêne. Et Noémie Weber, vous signez votre première bande dessinée qui a pour titre Junk Food Book, qui a paru aux éditions Gallimard. Restez avec nous tous les deux pour écouter la cerise sur le gâteau. Vous nous avez apporté des bonbons alors, Catherine Roig, pour rester dans le thème, bien sûr.
Mais bien sûr, mais pourquoi je vous ai apporté des bonbons?
Parce que c'est tellement bon.
Mais voilà, les bonbons c'est tellement bon que ça séduit tout le monde. Les Français en mangent chacun 3,3 kilos par an. C'est pas beaucoup hein, par rapport aux Européens. Mais ça représente quand même un bon gros milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et même si les bonbons font surtout la joie des enfants, 65% des adultes en consomment. Moi je pense que le chiffre est un peu faible, mais bon. Alors comme les fêtes se rapprochent à grands pas, j'ai eu envie de vous parler de douceur. Tout ça a commencé en Perse, 600 ans avant Jésus-Christ. Pas du tout par la découverte de la fraise Tagada, bonbon favori de nos compatriotes, mais par celle du, ouvrez les guillemets, roseau qui donne du miel sans le secours des abeilles. Il s'agissait bien sûr de la canne à sucre, dont Alexandre le Grand puis les croisés, bien plus tard, rapporteront des plants en Europe. Au fil des siècles, les moines apothicaires associent le sucre à des plantes curatives. C'est ainsi qu'est né le sucre d'orge, pour vaincre les rhumes, tandis que les pâtissiers imaginent des usages infinis pour ce sucre précieux.
Mais pourquoi précieux ?
Parce qu'en raison de sa rareté et de son prix élevé, le sucre a été considéré très longtemps comme un produit de grand luxe. Et les premiers bonbons n'étaient réservés qu'aux riches et aux puissants. On raconte d'ailleurs que c'est le pâtissier du pape Clément V, alors installé en Avignon, qui inventa le berlingot. Suivirent le nougat, les dragées, les pralines que l'on offrait lors de la trêve de Dieu, instaurée bien plus tôt par Saint-Louis, et devenue au fil du temps la trêve des confiseurs. Mais le grand boom du bonbon s'est vraiment produit à partir de l'exploitation de la betterave sucrière. Et pour ça, il faut attendre le 19e siècle. Et cette betterave ouvre la porte à la production industrielle de confiserie et à tous les excès de sucre, de colorants et autres gélifiants que nous connaissons.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne dit plus que le sucre des bonbons est précieux. Mais alors pourquoi, Catherine, vanter les plaisirs du bonbon aujourd'hui?
Eh bien parce que comme beaucoup de produits dévoyés par les dérives de l'agroalimentaire, le bonbon est en plein rebond. Pourquoi est-ce qu'il est en plein rebond? D'abord parce que notre regain d'intérêt pour le terroir nous pousse tous à redécouvrir les spécialités locales. Et côté bonbon, on est gâté puisque s'il existe 365 fromages en France, on dénombre pas moins de 600 confiseries régionales, de la Rigolette nantaise au Négus de Nevers en passant par le Cotignac d'Orléans, qui n'est autre que l'ancêtre du roux-doudou. Autre raison de ce regain d'intérêt pour le bonbon, plus les temps sont durs, plus nous recherchons des goûts réconfortants. Les grands pâtissiers l'ont bien compris et jouent sur notre nostalgie. Ainsi, Christophe Michalak réinvente le nounours à la guimauve en le plantant sur un bâton de sucette. Jacques Genin sublime les caramels avec des parfums incroyables. Et dans les confiseries les plus traditionnelles et les plus branchées, on retrouve aujourd'hui les meilleurs bonbons de nos grands-mères, comme les violettes ou les coquelicots. Plus anecdotique mais réel aussi, notre passion galopante pour le vintage remet à la mode les boîtes délicieusement rétro, des bonbons à l'ancienne comme celle des bergamotes de Nancy ou des petits quinquins de Lille. Et évidemment, pourquoi je vous parle aussi des bonbons d'aujourd'hui, c'est que les confiseurs, les fabricants font des efforts. Ils ont compris que s'ils voulaient continuer à en vendre aux enfants et surtout à leurs parents, il fallait les proposer en version bio ou végane. Et ces nouvelles confiseries vertueuses pullulent dans les boutiques et sur Internet. Les puristes, j'en connais, vont même jusqu'à faire eux-mêmes leur guimauve ou leur caramel. Alors Caroline, si vous n'en êtes pas là, mais que vous n'assumez plus de dévorer des crocodiles gélifiés, une marque très futée vient de créer des bonbons gourmets pour adultes en proposant des coffrets ultra design où trônent des sucreries aux saveurs de cocktails ou de gâteaux qui portent des noms comme Bonnie, Clyde ou Metro, Boulot, Mojito. C'est drôle, c'est raffiné, c'est délicieux, même si ça coûte un peu bonbon.
Merci Catherine Droig pour cette cerise sur le gâteau. Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aïgoui Chichkoyan, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et nos techniciens du jour, Vincent Jacob dans les studios de France Bleu Toulouse et Alexandre Dang ici à Paris, vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Culture. Dans un instant, le journal.